enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce matin, nous allons parler de la protection divine. Il y a vraiment quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Depuis mercredi d'ailleurs. Parce que mercredi, il y a cette parole que j'ai reçue du Seigneur concernant à certains moments, certains cas où le Seigneur montre qu'il ne faut pas aller plus loin. Et je tiens à commencer par cela. Parce que de toute façon, nous allons revenir dessus, mais je tiens à commencer par cela. Parce que mercredi, il y avait une personne ici, je ne sais même pas qui c'est parce que cette personne ne m'a rien dit, à qui le Seigneur parlait d'une façon très spécifique par rapport à une situation de sa vie où elle se posait la question de ce qu'est-ce qu'il faut faire finalement. Et le Seigneur lui a dit de ne pas aller plus loin, parce que si elle va plus loin, c'est là qu'elle va rencontrer l'ennemi. Et cette personne a été touchée en entendant ce message, mais elle a encore prié, dit: Seigneur, montre-le-moi encore, que ce dimanche on puisse encore entendre parler de ces choses avec d'autres exemples bibliques. Et le Seigneur va te parler encore ce matin. Mais pas seulement à toi, parce que cela nous concerne tous.
Amen.
Nous avons besoin de comprendre, comme le disait tout à l'heure le pasteur Olivier, d'ailleurs j'ai bien cru qu'il allait prêcher mon message. Nous avons besoin de comprendre comment fonctionne Dieu, comment fonctionne la parole de Dieu et les lois de Dieu. Et il y a une chose que nous avons tous besoin de savoir, c'est que Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'a pas une baguette magique. Il a un sceptre de puissance et d'autorité, et il agit de façon puissante, de façon surnaturelle. Il intervient dans le cours de la vie des hommes au travers de leur foi.
Mais
une chose que nous devons vraiment bien saisir,
c'est
que Dieu n'agit jamais avec des coups de baguette magique.
Amen.
On va lire ensemble dans Proverbe 18. Proverbe 18 et le verset 10. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Il y a une protection pour tous ceux qui appartiennent à Jésus et qui se réfugient en lui, et selon ce qu'il montre de faire. Et ça, c'est vraiment une chose importante dont nous allons parler. Lisons également psaume 27. Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent.
Ntiwotinya naho intambara yovyuka ikandwanya no muri yo norema ico nsaba uhoraho ni kimwe nico nzohora nitwararika nukuba mu ngoro y'uhoraho imisi yose y'ubugingo bwanje nkaraba ubwiza bw'uhoraho nkiweza urusengero rwiwe kuko ku munsi w'amagogwa azonziga makamisha mwihema ryiwe mu bwigobeko bw'ihema ryiwe nihazompisha azonshira hejuru ampagarike kugitandara n'ubu umutwe wanje uzoshirwa hejuru y'abansi banje bankikije nanje nzotangira ibimazi by'umunezero mwihema ryiwe.
La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés, ils seront attaqués. Et cela n'a rien d'étonnant parce que nous vivons dans une guerre spirituelle. Tant que nous serons sur cette terre, il y aura des affrontements. Et quand quelqu'un veut vivre pieusement, marcher avec Dieu, plaire au Seigneur, inévitablement, un certain nombre de choses viendront contre cette personne. Quand on lit notamment la vie de David, on voit qu'il a été servi. Il a été servi à différents niveaux. Dans un premier temps, ses frères ne croyaient pas en lui. Alors que Dieu l'a choisi pour être roi sur tout Israël, alors qu'il était encore un jeune enfant, je pense que vous connaissez tous l'histoire. Dieu a rejeté Saül à cause de sa désobéissance, à cause de toutes les choses qu'il a faites qui étaient vraiment contraires à la volonté de Dieu. Dieu a rejeté
Saül.
Il a dit à Samuel, va chez Isaïe et je te montrerai celui que tu vas oindre comme roi à la place de Saül. Et Isaïe va faire passer tous ses fils devant le prophète Samuel. Et à chaque fois, Dieu va dire, ce n'est pas celui-ci que je choisis. Ce n'est pas celui-là que j'ai choisi, ni encore celui-là. Et finalement, une fois que tous les fils sont passés devant Samuel, Dieu n'en a choisi aucun d'entre eux. Alors Samuel va dire, mais est-ce que t'en as pas d'autres? Et Isaïe dit, ah oui, c'est vrai. Il y a le petit là, celui qui garde les moutons. Celui qui est sans importance. Et quand on fait venir David, Samuel dit, c'est celui-là que j'ai choisi. Et Dieu dit à Samuel, moi je regarde au cœur et je ne regarde pas aux apparences. David a été choisi de préférence à tous ses frères. Et surtout de préférence à Saül. Et je vous assure que ce jour-là a été un jour de gloire, a été un jour de incroyable pour David. Il a été loin comme roi et le Saint-Esprit l'a saisi. Ce jour-là, le Saint-Esprit a été avec David et d'ailleurs ne l'a jamais quitté. Je vous assure que ce jour-là a été le commencement des problèmes. Est-ce que vous pensez que ses frères ont pu applaudir? Certainement pas. Ils n'ont rien dit parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de dire quoi que ce soit. Ils ne pouvaient pas remettre en cause devant Samuel, devant leur père, la décision de Dieu. Mais dans le cœur de ses frères, il a commencé à avoir de l'irritation et de l'aigreur.
Hatangwe kuba uguraka.
Et quand David s'est retrouvé devant
Goliath, Igihe Dawidi yisanga imbere ya Goliath,
ces choses sont ressorties.
Ibyo bintu byarasubiye kuvyuka muri.
Ses frères ont insulté David.
Bene se baramutuka.
Disant, mais qu'est-ce que tu es venu faire?
Baramubwiye ati mbe wowe waje gukora iki?
Qu'est-ce que tu es en train de dire?
Mbe uri kuvuga ibiki?
Tu parles du n'importe quoi.
Uvuga ibyo wigombe.
Tu es un moins que rien.
Ntacyo ushoboye.
Personne ne veut t'écouter.
Nta n'umwe agomba kukumviriza.
Et pourtant David,
ariko Dawidi,
était un homme selon le cœur de Dieu, un jeune homme.
Yari umusore afite umutima w'Imana.
Il n'a pas perdu courage.
Yacitse intege.
Il a affronté David.
Il
a affronté Goliath.
Yahanganye na Goliath.
Et il a tué Goliath.
Kandi yica Goliath.
Amen.
Amen.
Amen. Il a commencé à avoir des problèmes avec sa propre famille.
Atangura kugira ingorane hamwe n'umuryango
w'iwe. Il a eu des problèmes avec Saül.
Agira ingorane hamwe na Saul.
Il a eu des problèmes avec les Philistins.
Agira ingorane hamwe n'abafilisitiya.
Et tous les peuples environnants.
On
lui a fait la guerre.
Et
il n'a pas été reconnu comme roi du jour au lendemain.
Si on
peut dire que quelqu'un a eu une vie difficile, c'était bien le roi David.
Il a attendu
de longues années
avant
de pouvoir d'abord régner dans un premier temps, 7 ans à Hébron en Juda.
Et
finalement être sacré roi sur tout Israël. Et même en tant que roi. Il a eu encore des problèmes. Il a fait un certain nombre d'erreurs, c'est vrai. Il n'a pas su éduquer correctement ses enfants dans le Seigneur. Et quand ses enfants ont péché, notamment son fils Amon qui a déshonoré sa demi-sœur. Le frère de la demi-sœur qui s'appelait
Absalom
en a eu de la haine. Il a tué son frère Amon. Il a été renvoyé pendant des années. Puis ensuite, il est revenu. Mais dans le cœur d'Absalom, il y avait quelque chose de mauvais
qui
s'est manifesté. Il a fini par lever tout le peuple d'Israël contre David, son père.
S'est
fait sacré roi à sa place.
Et
je pense que vous connaissez l'histoire.
Tragique.
Absalom est mort. Tué par Joab. C'était vraiment quelque chose de triste et de désastreux. Quand on lit la vie du roi David, on voit que ce sont des guerres, des conflits, des persécutions et des attentats. Pour quelle raison, vous allez me dire? Pour quelle raison ces choses se sont produites? Et pour quelle raison elles pourraient également se produire dans ma vie? Ces choses se sont produites parce que Dieu a choisi
David
pour régner sur tout Israël.
Dieu
a choisi David parce qu'il a vu le cœur de David.
Un cœur
qui était tout entier à Dieu.
Amen.
Et à chaque fois que dans ce monde,
il
se trouve une personne qui a un cœur tout entier à Dieu, voilà ce qu'il va trouver. Peut-être pas de la même manière. Amen. Parce que nous devons comprendre une chose, c'est que tous ces attentats, tous ces problèmes, toutes ces persécutions, toutes ces attaques n'étaient pas dirigés en un premier temps contre David, mais contre Dieu, contre le plan de Dieu. Parce que David était un homme selon le cœur de Dieu. Amen.
Amen.
Et qu'est-ce que l'on lit dans ce passage?
C'est
dans ce psaume 27 que nous venons de lire ensemble.
C'est
un cœur, le cœur d'un homme qui est tout entier à Dieu. Je me confie en toi. Je ne crains rien. Je veux marcher avec toi. Et il continue en disant, je veux prendre du temps dans ta présence. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, c'est le verset 4. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ça, c'est le centre du cœur de David. Et ça doit être le centre de ton cœur. Ne t'inquiète pas des attaques. Ne t'inquiète pas des persécutions. Ne t'inquiète pas des choses qui viendront de toute manière contre toi. Mais sois un quelqu'un qui a un cœur tout entier pour Dieu. Qui ne recherche qu'une chose. Lui plaire. Le contempler. L'admirer. Et l'adorer. Amen. Parce que nous sommes appelés à avoir les yeux fixés sur Jésus. Et non pas à avoir les yeux fixés sur les problèmes. Quand on fixe nos yeux sur les problèmes, on voit des choses vraiment difficiles. Vraiment des choses énormes. Surtout quand ces problèmes sont causé par des attaques diaboliques. Et ça, c'est le premier point vraiment que le Seigneur me dit de faire ce matin, de vous donner. Quoi qu'il puisse arriver, quelles que puissent être les menaces, sachez que ce n'est pas orienté contre vous personnellement dans un premier temps, mais c'est orienté contre Dieu, contre l'œuvre de Dieu et contre le salut des âmes. Parce que nous devons comprendre quel est le véritable enjeu par rapport à toutes ces choses. Maintenant, par rapport aux attaques, par rapport à la guerre spirituelle, par rapport au combat, Dieu agit de différentes manières. Et il est important d'une part de comprendre que Dieu n'a pas de baguette magique, premièrement, et de comprendre aussi que Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais que ce soit vous, que ce soit moi aussi d'ailleurs, nous avons besoin d'apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit, à vraiment écouter plutôt que de commencer à crier, pleurer, s'effrayer ou vouloir foncer. Parce que vous savez comme moi que quand on veut foncer, on fait n'importe quoi, n'importe comment, et au lieu d'arranger les choses, on les empire. Donc on va voir dans un premier temps un certain nombre d'interventions directes qui ont été opérées par Dieu face à des attaques de l'ennemi. On voit par exemple dans l'histoire de la mer Rouge. Dans Exode chapitre 14, on va lire ensemble versets 13 à 17. Alors que le peuple d'Israël a quitté l'Égypte après avoir vu une série d'interventions miraculeuses, parce que Dieu a jugé l'Égypte au travers des 10 plaies. Finalement, après la mort des premiers-nés des Égyptiens, Pharaon accepte de laisser partir le peuple d'Israël. Mais après avoir commencer à marcher dans le désert, l'ennemi va encore exciter la méchanceté de Pharaon, qui va réunir son armée et venir derrière le peuple d'Israël pour le détruire. Et là, le peuple d'Israël se trouve dans une situation épouvantable. Devant eux, il y a la mer Rouge et ils ne peuvent pas la franchir. À droite et à gauche, il y a de hautes montagnes qu'ils ne peuvent pas escalader. Et derrière eux, il y a toute l'armée des Égyptiens qui est après eux pour les détruire. Et il arrive parfois que dans nos vies, nous sentions ce genre de pression. On sait qu'on est en train de marcher dans la volonté de Dieu, mais on voit qu'on ne peut pas aller plus loin. On ne veut pas retourner en arrière et on est en quelque sorte coincé. Et Dieu va parler à Moïse et va lui dire, verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris parlent aux enfants d'Israël et qu'ils marchent? Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël rentreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Tu lis du verset 16 et 17, s'il te plaît.
Turasoma 16:16 ngo nawe umanike inkoni yawe, uramvure ukuboko hejuru y'ikiyaga, ugitandukanye Abisirayeli bace hagati mu kiyaga nko ku musozi, nanje raba nkomanaje imitima y'abanyegiputa. Nkomanaze imitima y'abanyegiputa nabo bahace babakurikire maze mbone kwihesha icubahiro kuri Farawo no ku ngabo ziwe zose.
Amen. Ce que nous devons comprendre, c'est que quelle que soit la situation, nous avons toujours besoin d'une direction.
Amen.
Amen. La situation était grave pour le peuple d'Israël.
Mais
Dieu va parler. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est notre roi. Et du fait qu'il est notre roi, il est celui qui nous dirige. Souvent, on chante ce chant, Jésus, nous te couronnons. Mais quand tu es dans des problèmes, pourquoi est-ce que tu essayes toi-même de chercher des solutions? Que ce soit en toi, ou chez d'autres personnes, ou même chercher toi-même des solutions dans la parole de Dieu. Vous savez, ce livre est vraiment gros. Si nous devons lire toute la Bible avant de trouver une solution, on risque même de mourir avant que nous ayons trouvé la réponse.
Amen.
Celui qui donne la réponse, c'est le Seigneur. Et il peut utiliser cette parole. Il peut nous montrer au travers de sa parole ce qu'il veut faire. Une chose est vraiment primordiale, frères et sœurs. Cherchez le roi. Tu es le roi. Cherchez le roi. Tu es le roi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es mon roi. Je t'appartiens. Je suis à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce qui me concerne est à toi. Donc, Seigneur, prends soin de ce qui t'appartient. Et montre-moi ce que tu veux faire. Et aussi ce que moi je dois faire. Amen.
Amen.
Ça, c'est comme ça que les choses fonctionnent en premier temps.
Et
là, Dieu dit, je vais agir. Je vais ouvrir la mer rouge. Mais si Dieu ne dit pas cela, ne te précipite pas. Vous savez, il y a une histoire comme ça qui s'est passée il y a des années dans l'église de Yom Kishor. Que ce soit par rapport au fait que Dieu ait ouvert la mer rouge, ou que Dieu ait ouvert aussi le Jourdain, ce fleuve par lequel le peuple d'Israël est passé pour entrer dans la terre promise. Et dans l'église de Yom Kishor, il y avait deux jeunes filles qui voulaient se rendre donc en ville pour assister à une conférence qui était vraiment importante à leur cœur. Et elles étaient en marche pour se rendre donc en ville, puisqu'elles habitaient à la campagne. Et à un moment donné, elles sont passées à un endroit où il y avait vraiment une rivière. Vous savez, quand il pleut ici, parfois dans la saison des pluies, il peut pleuvoir vraiment beaucoup. Mais quand on parle des pays asiatiques, alors là, c'est encore une autre histoire. Il y a des pluies torrentielles. Il y a parfois des typhons, différents phénomènes comme ça qui font que les pluies sont énormes. Et ces filles sont arrivées au bord de la rivière. Et la rivière vraiment était devenue, avait vraiment débordé, ça coulait très fort et le pont avait été arraché. Et ces deux filles, elles étaient devant le bord de la rivière et elles se disent, nous voulons aller dans cette conférence. Et il n'y avait aucun moyen de passer parce que le pont était arraché. Alors elles ont commencé à se parler l'une à l'autre en disant, voilà, dans la parole de Dieu, Dieu a ouvert la mer rouge pour le peuple d'Israël. Dieu a ouvert le Jourdain pour son peuple aussi. Et nous savons également que Pierre a marché sur les eaux. Alors elles se sont dit, nous allons faire pareil. Elles se sont jetées dans l'eau. Et elles sont mortes toutes les deux. Parce qu'il n'y a aucune promesse spécifique. Aucune promesse spécifique dans la parole de Dieu par rapport au fait d'ouvrir un fleuve, d'ouvrir une mer, de marcher sur l'eau. Jésus a dit, en mon nom, parleront de nouvelles langues, guériront des malades, saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. N'est-ce pas? Mais il n'est pas dit, en mon nom, ils marcheront sur l'eau. Cela n'a pas été écrit de cette manière-là. Et nous devons faire attention de ne pas provoquer Dieu dans des choses qu'il ne promet pas. Vous ne pourrez jamais forcer la main de Dieu. Vous obligez Dieu à faire un miracle parce que vous voulez qu'il en soit ainsi. Ce qui compte, c'est ce que Dieu veut. Amen. Et nous disons qu'il en soit ainsi selon sa volonté et selon sa direction. Amen. 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 On va lire un autre passage dans lequel le Seigneur est intervenu. Toujours dans Exode, chapitre 17, le peuple d'Israël était dans le désert et il se retrouve face à Amalek. Alors, Exode 17, verset 8 à 13. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. » Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. » Amen. Donc là encore, on voit une autre situation. Et Moïse va donner des directives à Josué. Sachez une chose, c'est que les directives que Moïse donne à Josué, ce sont des directives qu'il a reçues du Seigneur. Amen. Amen. Essayez de vous trouver devant un problème. Levez vos mains. Et si votre problème s'arrange, ça sera par le pur des hasards. Baisse tes mains, ça s'aggrave. Lève tes mains, ça s'arrange. Les choses de Dieu ne marchent pas comme cela. Amen. Dieu n'est pas un magicien. Et nous ne sommes pas non plus des gens qui faisons des trucs. Il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Bénin. Et c'est un homme de Dieu qui est loin du Saint-Esprit. Et qui exerce son ministère d'une certaine manière. Il y a des temps parce qu'il marche sous la direction du Saint-Esprit. Ou quand les gens sont dans la salle debout, il va faire soyez touchés comme ça au nom de Jésus. Et les gens tombent par vagues. Et si je vous disais à l'instant, mettez-vous debout, et je ne vous demande pas d'ailleurs, et que je dise au nom de Jésus, soyez touchés, si je ne suis pas sous la direction l'onction du Saint-Esprit, vous allez me regarder. Qu'est-ce qui lui prend? N'est-ce pas? Il y a une autre chose qu'il fait. Cet homme de Dieu, parfois, il prend sa veste, il enlève sa veste, il prend sa veste, il la jette sur les gens. Et les gens sont comme électrocutés. Je vous assure que Bénin n'a pas une veste magique. Vous ne pourrez pas acheter une veste magique dans le magasin de Bénin. Parce que ça n'existe pas. Et toi et moi, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que je ne porte pas de veste, je n'enlèverai pas ma robe. Donc toi et moi, on peut prendre notre veste, si on en a une, la jeter sur les gens, et qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se fâcher. T'as un problème toi? Tu me jettes ta veste à la figure? C'est quoi ça? Et tu risques de retrouver ta veste déchirée, salie et abîmée. Parce que dans la veste, il n'y a rien. Il y a quelque chose dans la direction divine. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Il y a quelque chose dans la direction divine. Et quand on parle de direction divine, on parle de direction qui vient de Dieu. La direction divine, tu ne peux ni la fabriquer, ni la forcer. Tu peux seulement la recevoir. Et Dieu est bon. Il est bon pour te diriger. Lisons encore autre chose dans Josué, et on arrêtera là pour ce genre d'exemple, parce qu'il y en a des dizaines dans la Bible. Josué, chapitre 11. Vous savez, Josué, c'est un homme de Dieu qui, à certains moments de sa vie, a marché sous la direction divine, et à d'autres moments, qui a marché dans ses propres pensées, dans ses propres raisonnements, ou qui s'est laissé influencer par ce qu'il voyait, ou parce qu'on lui disait. Et quand on lit d'une manière générale la vie de Josué, on se dit vraiment c'était un grand homme de Dieu. Je dirais oui jusqu'à un certain point. Parce que les erreurs qu'il a faites ont eu de très très graves conséquences pour le peuple d'Israël, dans les générations qui ont suivi. La volonté de Dieu, c'était que tous les habitants qui habitaient cette région soit tous, sans aucune exception, chassés, exterminés. Et à cause de ces erreurs, du fait qu'il n'a pas recherché avec certitude, avec conviction et de tout son cœur Dieu dans tous les petits détails, il s'est trouvé qu'un certain nombre d'habitants, des ennemis de Dieu, les Cananéens, toutes ces personnes-là sont restées dans le territoire d'Israël. Des gens notamment comme les Gabaonites. Et ça a été une occasion de chute pour Israël. Recherchez vraiment de tout votre cœur la direction qui vient de Dieu. Quelles que soient les situations, les combats. Chercher Dieu dans les combats, ce n'est pas encore trop difficile. Mais chercher Dieu quand tout semble beau et facile. Pourquoi le faire? Vous savez, quand tout semble facile, il faut chercher deux fois plus Dieu que quand tout est difficile. Parce que c'est là où encore on peut se tromper encore bien plus gravement. Donc, dans Josué chapitre 11, on voit qu'il y a le roi d'Astor qui apprend ce qui est en train de se passer à Canaan. Et il va aller chercher d'autres rois, faire alliance avec d'autres rois pour combattre Josué. Et il va y avoir vraiment une multitude de personnes qui vont se retrouver par rapport face au peuple d'Israël, et beaucoup plus de gens. beaucoup plus d'ennemis et des ennemis beaucoup plus forts. Parce que je vous rappelle que le peuple d'Israël à cette époque-là n'était pas un peuple de guerre. C'était un peuple qui sortait de l'esclavage. Bien sûr, tous ces esclaves qui étaient en Égypte étaient morts dans le désert.
Mais
ce sont leurs fils et leurs filles qui sont entrés dans le pays d'Israël. Et
c'était
des gens qui ne savaient rien faire. Ils ne connaissaient pas la guerre. Ils ne savaient rien faire. Ils ne savaient même pas cultiver. Parce que dans le désert, on ne cultive pas. Donc c'était des gens qui étaient vraiment incapables de grand chose, ils étaient capables de peu de choses. Et que ça puisse t'encourager ce matin. Parce que face aux difficultés de la vie, ne soyons pas des personnes qui, dans un premier temps, nous appuyons sur notre sagesse. Bien sûr, la sagesse humaine a quand même une certaine valeur. Mais la sagesse divine est de bien plus grande valeur. Donc si tu te sens dépassé par toutes ces choses, ne t'inquiète pas. Dieu n'est jamais dépassé par quoi que ce soit. Verset 6. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets de leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. » Josué, avec tous ses gens de guerre, arriva subitement sur eux, près des eaux de Méron, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël, ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Misrephoth, Maïm, et jusqu'à la vallée de Mitzpah, vers l'Orient. Ils les battirent sans en laisser échapper aucun. Amen.
Amen.
On voit que Dieu est celui qui donne le plan.
Et
il y a une chose que j'aimerais vraiment vous faire remarquer. Que ce soit le peuple d'Israël devant la mer Rouge, que ce soit ici dans cette circonstance. Par exemple, encore dans 2 Chroniques chapitre 20. Non, on ne va pas le lire, mais dans 2 Chroniques chapitre 20, lorsque le roi Josaphat se voit aussi menacé par une multitude d'ennemis, Dieu commence toujours par dire, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne t'inquiète pas, car je vais faire quelque chose. Amen.
Amen.
Amen. Donc il y a des temps et des circonstances dans lesquelles Dieu va agir à main forte, à bras étendus, va donner une délivrance, une victoire surnaturelle à son peuple, parfois amener son peuple dans le combat. Mais il y a des temps où c'est le Seigneur seul qui va combattre, et il y a également d'autres temps où le Seigneur va dire à son peuple, fais marche arrière. Fais marche arrière. Non pas fais marche arrière devant l'ennemi. Parce que tu es un trouillard. Mais fais marche arrière. Parce que je veux agir d'une autre manière.
Amen.
Amen. Et cela est arrivé. Par exemple, autour de la naissance de Jésus. On peut dire aussi de la naissance de Moïse. On va commencer par la naissance de Moïse. Vous savez, la naissance de Moïse se passe dans un temps particulier.
Et
quand on lit dans le livre de l'Exode, au chapitre 1, on va lire versets 15 à 17. Exode chapitre 1, versets 15 à 17. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. On voit le plan de Pharaon. Pourquoi Pharaon veut-il subitement faire mourir tous les premiers-nés? Ça faisait 400 ans que le peuple d'Israël était implanté en Égypte. Ils s'étaient multipliés. Ils avaient été bien sûr opprimés. Étaient devenus les esclaves de Pharaon. Si Pharaon avait agi selon la sagesse humaine, il
ne
les aurait pas tués. Parce que plus il y a d'esclaves, plus il y a de travail accompli. Mais quand on regarde ce qui s'est passé réellement, on peut discerner que c'est le diable qui est derrière cela. Le diable est derrière cette décision de Pharaon. Le diable a créé une crainte dans le cœur de Pharaon pour qu'il extermine les premiers-nés des Hébreux. Et dans cette histoire, ce n'est pas les premiers-nés des Hébreux qui sont visés. En vérité, c'est Moïse.
Amen.
Amen. C'était pour tuer Moïse. Et bien sûr, le pharaon n'en savait rien du tout. Pourquoi tuer Moïse? Parce que Moïse était choisi par Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte afin de l'amener dans la terre promise. Vous savez que Pharaon s'est fait complètement manipulé par le diable. Il a agi de cette manière en ayant ses propres raisons, mais derrière il était excité par le diable afin d'essayer d'empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Donc quand on voit ce danger, quand on voit cette attaque, ce n'est pas orienté dans un premier temps contre le peuple d'Israël. Ce n'est pas orienté contre Moïse. Mais c'est orienté contre Dieu. Et contre le plan de Dieu. Donc il y a cette menace qui est là.
Et
il y a la mère de Moïse, donc cette femme qui s'appelait Jochébed, qui tombe enceinte. Et elle est complètement désespérée. Parce qu'elle met son fils au monde et elle ne sait pas quoi en faire. Elle ne sait pas quoi faire. Elle sait que son fils est en danger de mort. Mais derrière tout cela, Dieu a un plan. Vous savez, quand on manque de sagesse et quand on manque de vraiment rechercher le Seigneur par rapport à une situation donnée, on peut faire des erreurs. Et en fait, cette femme aurait pu faire l'erreur suivante de dire « Personne ne touchera à mon fils » et de commencer à se battre dans ce sens-là. Et si elle avait fait cela, elle n'aurait pas fait ce que Dieu avait prévu. Et peut-être qu'au bout d'un moment, un des soldats de Pharaon aurait mis la main sur l'enfant et l'aurait tué. Mais Dieu avait un plan et il a inspiré quelque chose de spécial dans le cœur de cette femme. C'était de fabriquer un panier, de mettre le bébé dessus dedans, et de le pousser sous l'eau du fleuve. Ça peut paraître complètement insensé. Surtout que quand on sait que dans le Nil, il y avait des crocodiles. Donc, humainement parlant, c'était insensé. Mais c'était le plan de Dieu pour protéger cet enfant et le faire grandir d'abord dans sa propre famille, puisque sa mère a été choisie pour être sa nourrice pendant au moins 2 ou 3 ans.
Puis,
enfin d'être élevé à la cour de Pharaon, là où il allait recevoir la meilleure éducation, et de continuer en devenant ce que Dieu avait voulu qu'il devienne, libérateur du peuple d'Israël. Quand on regarde autour de la naissance de Jésus, la même chose qui se passe. Je vous assure que quand il y a des choses particulières qui sont sur le point de se produire, l'ennemi se déchaîne. Et parfois, on ne comprend pas pourquoi. On ne voit pas pourquoi. Vous savez, le diable ne connaît pas toutes choses. Mais il a quand même certaines informations sur lesquelles il agit. Et on voit que Jésus va naître dans Matthieu chapitre 2. Jésus qui naît, ces rois mages qui viennent adorer Jésus et qui vont se rendre chez le roi Hérode. Et quand le roi Hérode va entendre qu'un grand roi est né en Israël, le verset 3 nous dit « Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui ». Matthieu
2:3.
Et là encore, Hérode va se sentir menacé.
Hérode yumva rero ahagaritse umutima.
Pourquoi? Parce que Hérode avait été nommé par Rome pour régner sur Israël. Alors il sait qu'un grand roi vient de naître. Il se sent menacé. Et il veut tuer ce roi. Et là encore, c'est sous l'influence du diable.
Donc
Hérode va manigancer un plan. Il va dire aux mages: s'il vous plaît, allez adorer ce roi, rendez-vous là-bas. Et quand vous aurez toutes les informations, dites-le moi. Parce que moi aussi, je veux aller l'adorer. Et qu'est-ce qui va se passer? Lisons verset 12. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. On va continuer. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que dit le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ce n'est pas la peine de lire. Voyez, face à cette menace, Dieu avait un plan et il avertit Joseph. Il dit: prends le petit enfant et pars d'ici. Ce n'était pas le temps d'affronter Hérode. Ce n'était pas comme cela qu'il fallait faire. Et quand dans ton cœur, tu sens que dans une situation quelconque, non pas parce que tu es quelqu'un de peureux, mais simplement parce que tu ne ressens pas de paix dans le témoignage intérieur qu'il y a au-dedans de toi, ne te force pas en disant: non, il ne m'arrivera rien, non, je n'aurai aucun problème, arrière de moi Satan, ça c'est du mensonge. Vous savez, nous devons prendre garde à ce qu'il y a dans notre cœur. Nous devons prendre garde et écouter ce témoignage intérieur. Dans cet exemple, on voit la chose suivante. Et c'est l'ange dit: prends l'enfant et pars d'ici. Ne reste pas sur ce terrain parce qu'il y a une menace. Et un petit peu plus tard, l'ange va encore parler à Joseph en lui disant: tu peux revenir. Mais quand on lit le verset 22, mais ayant appris qu'Archélaus régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth.
Ngo ariko yumvise yuko arukerayo yimwe mu Yudaya asubiye ku ngoma ya Herode atinya kujayo abwirwa mu nzozi waje mu ico gihugu c'i Galilaya.
Maintenant, j'aimerais revenir à ce texte que le Seigneur m'avait donné mercredi. Et on va lire ensemble dans 2 Rois, chapitre 6, versets 8 et 9. 2 Rois 6. Versets 8 et 9. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent.
Ngo hari igihe umwami w'Abisirayeli yatera w'Abisirayeli yatera Abisirayeli maze akaja inama n'abantu biwe akababwira ati hanaka tuzoja gutera ariko Elisa wa muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisirayeli ati wirinde uti ntuzuce hanaka ati kuko ariho Abasiriya bamanutse gutera.
Et quand on lit la suite de ce texte,
on voit que
cela n'est pas arrivé ni une fois ni deux fois, mais plusieurs fois. Jusqu'à ce que finalement le roi de Syrie finisse par s'en rendre compte.
Vous
voyez, quand on lit la Bible, il y a des temps où le Seigneur dit, va de l'avant. Je combats pour toi. Je t'ouvre la porte. Je vais m'occuper de cette situation. Il y a d'autres temps où le Seigneur te dit, vas-y, combat, parce que je te donne la victoire. Mais il y a d'autres temps également où le Seigneur peut dire, n'y va pas, n'y va pas. Le Seigneur aussi a parlé à l'apôtre Paul. Une fois, il devait se rendre dans un certain endroit et le Saint-Esprit ne lui permit pas d'y aller. Et s'il y avait été quand même, je suis persuadée que ça aurait été au prix de sa vie, il serait mort. Il serait mort. Vous savez, nous vivons dans une guerre spirituelle. Et sachez qu'au-delà de notre petite personne, qui n'a pas vraiment beaucoup d'importance, derrière cela, il y a le plan de Dieu. Il y a la volonté de Dieu. Il y a les choses que Dieu veut manifester au travers de vos vies. Et sachez-le, vos vies sont précieuses aux yeux du Seigneur. Vos vies sont précieuses. Vos vies sont utiles. Et vos vies doivent être utilisables. Mais pour que nos vies soient utilisables, nous devons comprendre ce qui nous entoure, ce que nous vivons. Pourquoi nous le vivons. Et nous devons aussi comprendre ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Écoutez la direction que le Seigneur nous donne. Même s'il y a cette promesse qui dit que aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Même si Jésus l'a dit aussi, qu'il nous a donné la puissance, l'autorité légale de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais sachez-le, ce n'est pas selon notre volonté, ce n'est pas selon nos idées personnelles, parce que la puissance de l'ennemi est extrêmement dangereuse. Mais quand on prend la peine de rechercher Dieu, et quand on comprend pourquoi ces choses arrivent, au lieu de nous précipiter, de faire n'importe quoi, ou de nous arrêter, de pleurnicher, de nous lamenter en pensant que Dieu nous a laissé tomber, cherchons le Seigneur de tout notre cœur et il nous montrera quoi faire et comment le faire. Amen.
Amen.
On va prier ensemble. Acclamons le Seigneur.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.